Aujourd'hui, on a l'honneur de parler avec M. François Bergeron du quotidien L'Express de Toronto, mais je vais lui demander tout de suite d'emblée, je vais commencer par lui demander s'il va bien. Bonjour Monsieur Bergeron, ça va bien?
Oui, bonjour. C'est pas un quotidien, c'est un hebdo.
Un hebdo, désolé.
Papier. Par contre, notre site web, qui est notre média principal, évidemment, lui, c'est un quotidien maintenant.
Excellent. Ben justement, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, est-ce possible de nous décrire un peu votre site puis vos principales fonctions au sein de cet hebdomadaire qui est sur le net, sur le web?
Oui, ben je suis le rédacteur en chef du journal L'Express de Toronto, qui est lui-même le média principal des francophones du Grand Toronto, là, c'est assez grand sur le Grand Toronto, depuis à peu près 45 ans, le journal, je veux dire. Et maintenant, le journal, c'est plus un best-of du site web l-express.ca, qui est le média numérique. Mais chaque semaine, on a conservé le papier, et chaque semaine, on a quand même plusieurs articles qui sont parus sur le web, généralement, durant la semaine, qui se retrouvent aussi dans la version papier du journal. On a aussi maintenant une infolettre tous les lundis, là, qu'on envoie à plusieurs abonnés. On a un magazine pour les élèves qui, ça fait un an et demi qu'on fait ça. C'est très bien reçu maintenant dans les écoles. C'est des articles de l'Express qui sont condensés pour les jeunes du secondaire, avec du matériel pédagogique de l'Alliance française ici, qui est notre principal centre culturel. Alors ça, c'est très bien reçu dans les écoles aussi. Puis évidemment, on est assez actif aussi sur les médias sociaux. Là. Tous nos articles qui sont faits pour le web sont répercutés automatiquement dans nos médias sociaux.
Ouais, c'est très intéressant.
Alors, voilà là où on en est.
Disons que j'ai plusieurs sous-questions par rapport à ce que vous venez de mentionner. Entre autres, vous dites que c'est un média qui est vieux de 45 ans. Comment est-ce que ça a vu le jour, l'Express de Toronto?
Bien avant l'Express, il y a eu 5-6 autres journaux, dont un qui a duré quand même 5 ans, qui s'appelait Courrier Sud, là, qui était un journal qui prétendait couvrir toute la péninsule du sud de l'Ontario. Alors ça a vivoté un peu pendant 5 ans. Là, on est dans les années 70.
Oui.
Et le graphiste de ce journal-là, c'était un étudiant, un immigrant roumain, qui étudiait au Ontario College of Art, ici, qui est qui est devenue l'université OCAD, d'ailleurs, de l'école d'art. Et lui, il faisait la mise en page de ce journal-là. Et quand le journal a fait faillite, ben lui, il s'est retrouvé avec des tables de mise en page puis de l'équipement. Alors, il a dit, je pars mon propre journal. Et c'est lui qui a lancé l'Express de Toronto en 1976. Moi, personnellement, j'étais journaliste à la presse canadienne à Montréal. J'étais venu en visite à Toronto à un moment donné en 79. Et on s'était rencontrés, puis finalement, il m'avait fait une offre et j'ai déménagé de Montréal à Toronto. Et moi, je suis là depuis une quarantaine d'années. Bien que j'ai fait toutes sortes d'autres choses, j'ai fait de la télé, j'ai travaillé pour le Journal de Montréal, j'ai fait plein d'autres choses on and off de Toronto, Toronto, Montréal, un peu partout. Mais j'ai toujours eu une base, un bureau à Toronto. Et quand je ne pouvais pas être rédacteur en chef, ben, je déléguais ça à quelqu'un et puis je faisais d'autres choses, mais je revenais. Et là, je suis toujours là.
Excellent. Et encore une fois, plusieurs choses. On va aller par rapport à votre cheminement dans le monde des médias. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé? Est-ce que vous aviez déjà la piqûre très jeune?
Oui. Oui, je suis diplômé en journalisme de l'Université Laval à Québec. Bien que je vienne de Montréal, là, mais à mon époque, c'était la seule université qui donnait un programme de journalisme. Et j'étais déjà, bien avant ça, intéressé aux médias. Alors,
est-ce que vous aviez eu des inspirations particulières? Est-ce qu'il y avait des journalistes qui vous avaient comme donné la flamme de vous diriger là-dedans?
Pas de me diriger, mais une fois rendu là, c'est sûr que j'en ai rencontré plusieurs. Il y avait plusieurs bons journalistes québécois qui étaient profs aussi à l'Université Laval. Donc, j'en ai croisé plusieurs. Mais avant ça, évidemment, j'étais un lecteur assidu des médias, là, puis des nouvelles. C'est parce que tu es maniaque des nouvelles que tu t'en vas en journalisme. C'est pas l'inverse. J'ai connu du monde, moi, quand j'étais à l'Université Laval, qui était étudiant en journalisme. Mais là, c'est là qu'il décidait de se mettre à lire les médias. Alors ça, c'est pas une bonne... c'est pas le bon cheminement. Normalement, c'est parce que tu tripes sur l'actualité et les médias que tu... Toi, quand j'étais au secondaire, mes matières où j'étais le plus fort, c'était l'histoire, entre autres. Et le journalisme, ben, c'est de l'histoire du présent. C'est l'histoire de ce qui s'est passé hier. Alors, on est des historiens du présent, les journalistes.
Vous avez débuté au niveau du média écrit, du côté de la presse, c'est bien ça?
Oui, j'ai toujours été presse écrite. D'ailleurs, mon prof préféré à l'Université Laval, c'était mon prof de presse écrite. C'était un gars du Devoir, là, à l'époque. Comment il s'appelait? Je ne me souviens plus. Mais enfin. J'ai travaillé donc aussi après pour la presse canadienne à Montréal, là aussi dans l'écrit. Et puis avant de venir à Toronto. C'est toujours la presse écrite qui m'a intéressé.
Quand vous êtes allé du côté de Toronto, c'est sûr que c'est un nouveau défi. C'est quoi qui vous a interpellé justement dans ce type de défi-là?
Ah ben, j'étais venu en touriste. J'ai croisé le propriétaire du journal. Je savais qu'il y avait un journal, parce que je l'avais vu à la bibliothèque de Montréal. Mais je suis passé par là, puis là, je suis allé jaser avec lui. Mais c'était justement au moment où lui avait perdu son principal journaliste, puis il cherchait quelqu'un. Alors on s'est mis à discuter pendant quelques semaines par téléphone, là, puis finalement j'ai quitté la presse canadienne, puis je suis venu à Toronto.
Est-ce qu'il y a un gros public cible, bassin de la population francophone qui consommait déjà à l'époque quotidien?
Ben, oui, à Toronto, on est quoi, 2-3% de la population, là je parle des francophones de langue maternelle, mais c'est 2-3% de 4 millions d'habitants. Alors c'est quand même beaucoup. On a un bassin de je sais pas, 100 000 lecteurs potentiels francophones. Soit notre journal est à 12 500 copies en ce moment dans des boîtes, dans à peu près 500 boîtes au centre-ville de Toronto.
C'est très bon, c'est très bon.
On est un des principaux journaux de la francophonie canadienne hors Québec. D'ailleurs, c'est moi cette année qui est le président de Réseau.presse, qui est l'association des 24 journaux de la francophonie hors Québec.
OK. Ça, c'est quoi exactement cet organisme-là? Je ne le connais pas, là.
Ça s'appelle Réseau.presse.
Oui.
Et avant, c'était l'association de la presse francophone. Ça a changé son nom cette année. Et depuis septembre, c'est moi qui est président. On a des journaux dans les provinces maritimes. C'est pas un groupe de presse. C'est vraiment une association de journaux. Chaque journal est indépendant dans l'association.
OK. C'est intéressant. Vous disiez que ça fait maintenant 45 ans qu'il existe. C'est quoi qui a été les différentes étapes qui ont fait évoluer votre média? Comment ça a changé depuis les années? Parce que ça a dû changer de façon considérable.
Ah ben oui, surtout le changement technologique. Écoute, quand je suis arrivé, premièrement, tu écrivais ton texte sur une machine qui n'avait pas d'écran. Alors, il y avait une ligne. Tu voyais une phrase à peu près de ce que tu écrivais. Ça sortait en ruban perforé. Il fallait que tu mettes ton ruban perforé dans une machine à peu près grosse comme un frigo qui sortait du papier photo en colonne sur lequel ton texte est imprimé. Là, il fallait que tu prennes ça, tu mettes ça avec une table de mise en page, avec tu faisais passer tes colonnes de papier dans une cireuse qui permettait de coller ton papier colonne par colonne sur une espèce de planche de carton qui ressemblait à une page de journal. Puis c'est ces pages-là que tu envoyais à l'imprimerie. Les photos, il y avait tout un autre traitement. Là. Il fallait tramer les photos sur une autre machine.
Est-ce que c'est le journaliste qui devait... Désolé de vous interrompre, mais est-ce que c'est le journaliste qui devait faire ça? Coller les différents éléments du texte, ces choses-là? Parce que
comme je vous ai dit, le gars qui a lancé ce journal-là, le proprio, c'était un graphiste de formation. Alors, en fait, c'est lui qui faisait ça. Et puis, lui, il n'écrivait pas. Lui faisait le montage graphique du journal. Et moi, j'écrivais. On était deux à un moment donné, tu sais, puis là, on avait un paquet de pigistes. On a continué. Ça a été toujours la force du journal d'avoir un gros réseau de pigistes et de chroniqueurs qui nous fournissaient des articles, des photos, du matériel.
En même temps, M. Bergeron, je ne sais pas comment ça fonctionnait au niveau, mais vous deviez faire très attention aux fautes de français, justement, parce que, je sais pas, ça devait pas être évident de corriger quand c'était quelque chose de collé sur une plaquette. Là. Peut-être que je le vois plus gros que ça, mais...
Ah, non, non, il fallait le corriger au couteau. C'est-à-dire que si on voyait une faute, il fallait couper avec un exacto.
Caroline.
Puis, tu sais, puis là, mettre des lettres, tu sais, il fallait qu'il y ait une petite lettre au bout de ton pouce, puis tu rentrais ça dans le trou qui manquait, ou, tu sais. Alors, il fallait couper. C'est pour ça que quand tu lis des anciens journaux, il y a des lettres qui sont un peu en haut de l'autre, et puis il y a des trous, il y a des espaces qui n'ont pas de bon sens. Là, alors, ça vient de là. Mais évidemment, avec le temps, on a quand même toujours été à la fine pointe des changements. Dès que les ordis sont arrivés pour les journaux, on les avait. On a toujours évolué en même temps que le marché. Là.
Ouais, c'est
que,
ça,
que les grands journaux.
Vous avez su vous adapter au fur et à mesure. C'est quoi? C'est à partir du milieu des années 80, début 90, sûrement, que là, veut pas le côté technologique a commencé à prendre de plus en plus de place?
C'est ça, ouais. Si je regarde notre site web, nos archives web remontent à 2006. Okay. Bien qu'on a des archives papier à la bibliothèque de l'Université York là, qui remonte jusqu'au tout début en 1976. Mais donc ça veut dire que notre premier site web date de 2006, du moins celui qui peut référencer des articles. Et puis donc oui, on a... c'est surtout depuis 2006, que là, c'est le web qui prend de plus en plus d'importance. Et ça fait peut-être maintenant, je sais pas, 5 ans, que le journal papier est un produit secondaire, que c'est le site web qui est le produit principal.
OK. Juste pour, avant de on va en parler un petit peu plus tard, là, bien sûr, le site web, l'importance d'eux, mais je veux savoir, à l'époque, lorsque vous n'étiez pas beaucoup, bien sûr, derrière tout ça, comment vous choisissiez vos articles, de quoi ils allaient traiter?
Ah, ben, on est quand même le journal près de la communauté francophone de Toronto. Alors ça, on couvre systématiquement ce qui se passe en français à Toronto, puis il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a des organismes, il y a du culturel, il y a des... Tu sais, il y a des artistes qui passent par ici. On a des artistes locaux qui font des spectacles. On a un théâtre français. On a un endroit avec une salle. Il y a des conférences. On a un centre francophone maintenant très dynamique là, qui reçoit les nouveaux arrivants, qui a beaucoup, beaucoup de services communautaires, qui a une clinique de santé là-dedans. Alors, il y a vraiment beaucoup de sujets à couvrir juste dans la francophonie torontoise. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste ça. Il y a des enjeux de la ville de Toronto, de la province de l'Ontario, des enjeux nationaux qui ont des répercussions chez nous quand il y a des campagnes électorales, même des enjeux internationaux. Tu peux avoir une visite d'un président français, par exemple. Ça, la communauté française de Toronto est toute énervée avec ça.
Okay.
Alors, on couvre toutes sortes de choses, mais évidemment, systématiquement, la francophonie torontoise.
Mais vous avez parlé d'un centre de la francophonie. C'est quoi? C'est justement, c'est lorsque les francophones s'établissent du côté de Toronto.
Oui, ben, c'est un organisme communautaire. C'est comme un centre communautaire. Ça s'appelle le Centre francophone du Grand Toronto, d'ailleurs.
C'est bon.
Ça a une clinique de santé. Avant, la clinique, d'ailleurs, était séparée. Les deux entités ont fusionné. Alors, c'est maintenant un centre multiservice. C'est subventionné par beaucoup de bailleurs de fonds. C'est un centre communautaire. Il y a aussi l'Alliance française de Toronto, qui est théoriquement une école de français pour adultes, mais qui donne qui a beaucoup d'activités culturelles pour ses étudiants, mais aussi pour toute la francophonie torontoise, parce que c'est des conférences, des films, des pièces de théâtre en français. On a un théâtre professionnel, très professionnel même, français à Toronto, qui s'appelle le Théâtre français de Toronto. Et il y a surtout aussi le noyau dur, franchement, de la communauté francophone à Toronto, c'est les gens qui envoient leurs enfants dans les écoles françaises. Parce qu'on a un réseau d'une centaine d'écoles françaises à Toronto, et là, je parle du très grand Toronto, là, presque la moitié de la péninsule ontarienne. Alors, on a deux... en Ontario, il y a des systèmes publics puis catholiques, mais qui sont deux systèmes finalement autant financés par la province que l'autre. Alors chez les francophones aussi, on a un système d'école publique francophone. Il y a un système d'école catholique francophone. Et puis les gens envoient leurs enfants là, dans ces écoles-là. Ça, c'est vraiment le noyau dur de la francophonie. Et on couvre leurs activités. Eux aussi ont beaucoup d'activités dans leurs écoles. On a maintenant l'équivalent d'un cégep au Québec. On appelle ça des collèges communautaires. Okay. On a deux collèges communautaires francophones en Ontario qui ont chacun un campus à Toronto. Et puis, on a maintenant l'Université de l'Ontario français depuis quelques mois qui est ouvert à Toronto. Mais il y avait déjà quand même un campus bilingue de l'Université York depuis 50 ans. Alors, la francophonie torontoise, quand même si elle évolue beaucoup, elle est là depuis un bon bout de temps.
Est-ce qu'elle... ça se passe bien quand même, les relations avec la communauté anglophone? Est-ce que ça arrive parfois que, je sais pas, il peut y avoir certains rififi ou des choses comme ça, même au niveau des médias, je vous dirais, là, peut-être des médias, on peut extrapoler aussi au niveau des médias anglophones, comment ça se passe?
Oui, ben ça arrive surtout quand il y a des référendums sur l'indépendance au Québec.
OK, c'est là que vous le ressentez.
Okay. Ça a des grosses répercussions chez nous.
C'est sûr qu'en 1995, ça devait être quelque chose, c'est ça?
C'est ça, en 80 et en 95,
ouais.
ça brassait pas mal dans les médias. Ça discutait évidemment surtout au Québec, mais même ici, il y avait donc beaucoup de... Tu sais, quand on dit « what does Québec want », ben nous autres, ils nous demandaient « qu'est-ce que vous voulez? » Ou juste, c'est pourquoi vous êtes aussi énervé que ça, ils ne comprenaient pas. Alors, faut expliquer. Puis le journal, d'ailleurs, a eu des belles années durant les référendums québécois parce que beaucoup d'anglophones le ramassaient pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent au juste ces francophones-là. Et on a aussi une communauté francophile assez importante. Quand je dis qu'on est 100 000 francophones de langue maternelle à Toronto, il y a peut-être 400 000 anglophones qui parlent, qui peuvent comprendre ou baragouiner le français, qui sont allés à l'école ou qui envoient même leurs enfants dans des écoles d'immersion en français, donc qui sont pro-bilinguisme. Alors, c'est sûr que c'est un public, ça aussi. Une autre fois, par exemple, au Théâtre français de Toronto, il y a maintenant des surtitres en anglais au-dessus de la scène parce que la majorité des francophones à Toronto sont mariés à un ou une anglophone. C'est la majorité des familles francophones sont en fait des familles mixtes, un parent francophone puis l'autre anglophone. Donc, ça se reflète ça dans nos écoles, là, quand tu entends le français des jeunes dans nos écoles.
Est-ce que pour les familles, donc, c'est important encore, justement, que le français, la langue française continue à vivre? Parce que, justement, il peut y avoir un peu... pas la trappe, mais si on côtoie quelqu'un qui parle anglais, étant dans une communauté majoritairement anglophone, de perdre un peu notre langue française?
Oui, c'est sûr que c'est les familles où il y a les deux parents qui sont francophones qui ont le plus de chances que leurs enfants n'aient pas de problème à être bilingues. Quand c'est la mère qui est francophone, c'est pas pour rien qu'on parle de la langue maternelle. C'est plus facile parce que l'enfant est avec la mère généralement depuis plus longtemps, puis plus souvent. Mais quand c'est le père qui est francophone puis est marié à une anglophone, là, faut presque faire des efforts pour que les jeunes continuent de bien parler français. Et par contre, dès que tu as un des deux parents qui est francophone, tu peux mettre ton enfant dans une école française, ce que beaucoup de familles mixtes font.
Okay.
Donc, ça donne une chance quand même aux jeunes de comme moi, mais j'ai deux enfants. Mes deux enfants sont parfaitement bilingues, là, bien qu'ils fonctionnent en anglais. Tu vois, l'anglais, c'est même pas un problème. L'anglais, tu attrapes ça. T'sais, ça s'attrape, alors que le français, ça s'apprend. Mais bref, nos jeunes parlent anglais avec leurs amis autour, puis ils ont parlé français à l'école. Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Le français, c'est généralement à l'école puis à la maison pour les jeunes. Dans la rue puis dans les commerces, évidemment, ça se passe plus en anglais.
Mais justement, la jeune génération, je ne sais pas comment vous voyez, comment vous les évaluez plutôt, leurs plumes, parce que même nous ici, là, au Québec, on le voit là, avec l'avènement des réseaux sociaux, ces choses-là, disons que c'est souvent escamoté un peu, on écrit en abréviation avec plusieurs fautes, des choses comme ça. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Est-ce que ça vous, des fois, ça vous fatigue l'œil un peu? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Oui, ça dérange, mais en Ontario et je dirais dans toute la francophonie hors Québec, c'est tellement un miracle que nos jeunes parlent encore français qu'on est juste content qu'ils parlent français. T'sais, leur petite faute, c'est pas bien grave. Et il y a un concept ici aussi dans la francophonie hors Québec qui s'appelle l'insécurité linguistique. C'est que les gens qui arrivent d'une famille où ça parle anglais plus souvent que français, ben, ils arrivent à l'école puis il y a des niveaux de français très différents entre les jeunes eux-mêmes. Alors, il y en a qui ont un peu honte de leur français et ça, c'est pas bien. T'sais, théoriquement, on veut assimiler le plus grand nombre possible, ou on veut encourager le plus grand nombre possible de jeunes d'interagir en français, quel que soit leur niveau de français, parce que tout simplement, et plus tu le pratiques, plus tu l'améliores. Mais moi, évidemment, je fais un journal, je fais de la presse écrite, donc c'est sûr que, par exemple, pour embaucher un journaliste, ben, il faut que son français écrit soit déjà très bon.
Est-ce que vous trouvez que ça s'est vraiment détérioré, ça, au sein de la jeune génération de journalistes?
Détérioré.
Peut-être un mot fort.
J'hésite à dire détérioré, franchement, parce que ceux qui s'en vont en presse écrite, d'habitude, c'est des gens dont le français est déjà bon. Mm-hmm. Alors, ça, c'est moins pire. C'est les autres, ben, ils font d'autres choses. En joke, je dirais qu'ils font de la radio, mais
c'est comme
ça, la radio, je dirais pas ça.
Je la trouve bonne. C'est correct. Faisant de la radio, je peux adhérer, un peu.
C'est ça. Mais de toute façon, il y a des gens donc, qui parlent français. Moi, mon garagiste parle très bien français. Mais je suis sûr que je ne lui demanderai pas un article sur la mécanique dans le journal. Il ne sera pas capable d'écrire ça. Mais il y a une différence entre un niveau de français, souvent oral, et le niveau écrit. Alors, mais comme je te dis, on est tellement minoritaire puis conscient de l'importance de maintenir ou de protéger le français qu'on est très, très indulgent et accueillant envers les gens qui... envers tous les niveaux de français.
Ouais,
on a aussi
des
beaucoup
efforts.
D'immigrants. T'sais, on a des, ouais. des Africains, on a des Haïtiens, on a beaucoup d'immigrants de toute la francophonie, des Roumains, des Ukrainiens qui parlent français. Alors, ça aussi, c'est toutes sortes de niveaux de langue.
Ah, c'est effectivement. Puis tantôt, vous avez peur, parce que je veux absolument parler un peu du volet web. Est-ce que vous avez peur qu'à un certain moment, le volet papier, lui, disparaisse complètement, étant donné que, veut pas, maintenant, on dirait qu'on consomme tout de façon rapide? Mm-hmm. C'est peut-être pour ça un peu qu'on se dirige plus vers le web?
Ben, nous, on voulait, l'an dernier, éliminer le papier. Mais finalement, beaucoup de gens nous ont dit, ben non, faites pas ça, on aime ça.
OK, la demande était là. La demande était là.
La demande était là, c'est aussi encore payant. T'sais, nous, on est une entreprise privée, là. On n'est pas un organisme à but non lucratif. Alors, il est important qu'on fasse du profit chaque année. Et le journal papier reste payant. Alors, on le conserve, bien que notre développement puis notre focus, c'est maintenant le site web. On développe les audiences du site web. Mais on se rend compte aussi que le journal papier, c'est comme une carte de visite. Il y a beaucoup de gens, surtout qu'à Toronto, on est dans la population la plus mobile au Canada. Autant chez les francophones que chez les anglophones, mais chez les francophones, par exemple, beaucoup de Québécois vont venir à Toronto, je ne sais pas, 2 ans, travailler au siège social ou à quelque part, puis ils vont repartir. Des Européens font la même chose, ils viennent quelques années, ils repartent en Europe. Il y a beaucoup de mobilité dans la francophonie torontoise. Donc, on est constamment en train de renouveler nos lecteurs. Et le journal papier, avec ses boîtes un peu partout au centre-ville, c'est comme une carte de visite. Il y a des gens qui ne connaissent pas, parce que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là, qui ne connaissent pas, ils ne savent même pas qu'il y a des francophones à Toronto. Et donc, ils voient un journal français dans une boîte. Ils le ramassent. Premièrement, ils découvrent le journal, mais deuxièmement, ils découvrent toute la communauté francophone dont on parle dans le journal. Alors, juste pour ça, c'est une bonne idée de conserver le journal papier.
Oui, je comprends. C'est comme si vous ouvriez une porte, dans le fond, à l'intégration justement des francophones dans ce milieu-là anglophone.
C'est comme des affiches qui sont éparpillées un peu partout.
Très intéressant.
C'est une visibilité dans les rues qu'on n'aurait pas si on n'était que web.
Bien, M. Bergeron, je vous remercie beaucoup d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Encore une fois, c'était très intéressant. Puis je vous souhaite que le succès, bien sûr, avec avec votre hebdomadaire pour des années, encore 40 ans. Tain, rien de moins. Encore un bon 40 ans. Êtes-vous partant pour un autre 40 ans, M. Bergeron?
OK, bien oui, bien sûr. Et puis merci beaucoup. Bonne chance à vous aussi. Bonne continuation.
Merci, là. Bonne fin de journée. C'était M. François Bergeron, rédacteur en chef de l'hebdomadaire L'Express de Toronto.